Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, je veux d'abord vous faire part d'un léger embarras. J'avais préparé mon intervention avec ce petit objet pour la construire et la développer autour de quelques images. C'est en effet difficile de parler des grands travaux culturels présidentiels sans illustration. Mais bon, la mairie de Paris a ses contraintes, ses avantages aussi et ses splendeurs, mais aussi quelques contraintes techniques. Alors je vais essayer d'improviser en faisant appel à votre imagination. L'histoire des grands chantiers culturels présidentiels à Paris, vous le savez, elle commence avec un artiste italien. Vous le connaissez tous, il s'appelle Renzo Piano, il est le concepteur et le constructeur du centre Georges Pompidou au début des années 70. Ce premier grand chantier culturel présidentiel de la période contemporaine relève d'abord d'un président de la République qui a, avec les arts, et notamment les arts visuels, les arts modernes et les arts contemporains, un commerce personnel particulier. Il relève aussi de la nécessité de créer un nouveau musée d'art moderne, l'ancien, celui du palais de Tokyo, étant devenu trop exigu compte tenu à la fois du développement des collections et aussi de l'allongement de la période. Ce premier grand chantier est suivi immédiatement par le successeur de Georges Pompidou, mort prématurément, Valéry Giscard d'Estaing, avec deux nouveaux grands projets. Un projet qui est lié au scandale technique des abattoirs à Paris construits sur le site de la Villette, construits et non achevés, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas. L'interruption donc de ce chantier de construction des abattoirs incitant le président de la République de l'époque à imaginer une réutilisation de l'armature générale déjà construite et du site qui l'environne. Et c'est ainsi, à l'instigation notamment de Paul Delouvrier, un des très grands commis de l'État de cette époque, d'engager le grand chantier de la Cité des sciences et de l'industrie, qui sera d'ailleurs achevé et terminé par le président de la République qui succédera à Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire François Mitterrand. Deuxième grand chantier de l'ère Giscard, c'est celui de la reconversion de la gare d'Orsay et la création de ce grand musée du XIXe siècle, confié à l'architecte Gao Alenti, lui aussi rendu nécessaire par le développement ou l'importance des collections non présentées, non montrées du musée du Louvre. Donc, deux grands chantiers sous Giscard, un sous Pompidou, mais ni dans un cas ni dans l'autre, de vision, je dirais, de la nouvelle place de l'investissement culturel dans une stratégie globale de développement de la cité, d'aménagement culturel de celle-ci. Avec l'élection de François Mitterrand, les choses changent d'échelle, elles changent aussi de pensée. Michel Gendron-Massalou, Jean Musitelli, ici présent, avec moi-même, avons suivi toute cette période d'élaboration et de mise en œuvre de la politique des grands chantiers culturels conçue et pilotée dès son élection, sa première élection, jusqu'à son départ de l'Élysée par François Mitterrand, c'est-à-dire sur une période de 14 ans. Comment témoignent, vous citiez à l'instant les archives italiennes, je visitais récemment les archives de France. Les archives du président Mitterrand représentent 6 kilomètres de linéaire aujourd'hui, et je me rendais compte en les visitant de l'importance dans ces 6 kilomètres de linéaire de l'ensemble des documents liés à cette politique des grands travaux. Il y a une quantité, et on peut le dire une qualité de documents de nature très diverse, de rapports, de notes, d'échanges, de courriers, de comptes rendus, d'articles, sur cette politique qui témoigne de la, plus que l'intérêt, de la passion que le président de la République attachait à ce projet qui ne s'est pas élaboré d'emblée, qui s'est construit peu à peu au cours des premières années. La première pensée qui caractérise l'élaboration de cette progressive de cette politique, c'est une pensée de l'histoire. François Mitterrand, je regrette, j'avais une image de la citation, il s'inscrit lui-même dans la lignée des rois de France, il ne le craint pas, lors d'une interview qui accompagne la conférence de presse du 24 septembre 81, c'est-à-dire 4 mois après sa première élection, où il officialise la décision de lancement du Grand Louvre. On peut s'attarder quelques instants sur l'exemple du Grand Louvre, qui de tous les grands projets est celui, bien entendu, auquel François Mitterrand est resté le plus attaché. 3 acteurs jouent autour de lui un rôle majeur. Le premier est évidemment Jacques Lang, ministre de la Culture, auteur des premiers documents qui lancent le projet du Grand Louvre. Un deuxième homme acquiert au même moment, simultanément, une place fondamentale, c'est Émile Biasini, que le président de la République nomme dès septembre 82 responsable d'une mission de proposition et de conception pour le futur Grand Louvre. Et enfin, la troisième personne, au tournant de 82 et de 83, est l'architecte Yopian Ming, choisi sans concours par François Mitterrand sur proposition d'Émile Biasini. J'insiste sur ce sans concours, car ceci serait totalement impossible aujourd'hui. Ça l'est devenu d'ailleurs quelque temps plus tard, et pour les chantiers successifs. Peille présente son avant-projet à François Mitterrand en juin 83, sans évoquer la pyramide qui ne sera présentée qu'en novembre suivant. C'est à la suite de cette présentation qu'un établissement public constructeur du Grand Louvre est créé, dont la présidence est confiée par François Mitterrand à Émile Biasini. Il faut attendre février 84 pour que le président de la République donne son accord définitif au projet architectural de Peille, et ça n'est qu'en janvier 1984 que ce projet est dévoilé au public, et notamment le projet de la pyramide qui crée, vous vous en souvenez, une polémique nationale. La polémique durera 1 an. Elle s'achèvera pratiquement au bout d'un an grâce à l'installation d'une maquette de la pyramide, d'un ersatz de pyramide en vraie grandeur à son emplacement futur, qui permettra de désamorcer la guerre qui s'est développée donc pendant toute cette période. Le déménagement du ministère des Finances qui conditionnait le lancement de la tranche la plus importante des travaux, c'est-à-dire la conversion de l'aile Richelieu, ce déménagement ayant été ralenti par l'alternance de 86, la première grande partie de la transformation du Louvre en Grand Louvre, c'est-à-dire la restitution à l'intégralité du bâtiment de sa vocation muséale, n'aura lieu qu'en novembre 83, soit 12 ans après la décision prise de cette transformation. Donc une pensée de l'histoire, une pensée aussi de la, comme je le disais il y a un instant, de la place nouvelle qu'occupe la culture désormais dans les stratégies de rayonnement international de la capitale et ainsi que de son attractivité. Le succès même du centre Georges Pompidou, le succès des grandes expositions internationales des années correspondantes et notamment de celles qui sont organisées au Grand Palais, encourage le président de la République très vite, au-delà du projet du Louvre, à élaborer un véritable plan, évidemment de longue durée, et qui couvre toute une série de besoins divers, qui sont mis en lumière par l'entourage du président. Je citais Jacques Lang, je citais Émile Biasini. Il faudrait citer également un certain nombre de conseillers, par exemple Jacques Attali, qui a été le conseiller principal de la création du futur centre de la communication à l'occasion de la construction de la Grande Arche de la Défense, centre de la communication qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour, également conseiller pour la création de la future Bibliothèque nationale de France. Il faudrait aussi citer des personnalités culturelles, artistiques et culturelles importantes comme Pierre Boulez, qui a été le porteur du projet de l'Opéra Bastille. Bref, très vite après l'automne 81, c'est-à-dire après le lancement du projet du Grand Louvre, une mission de conception et de coordination des futurs grands chantiers présidentiels est créée et confiée d'abord à Yves Dauge, puis, comme je l'ai dit, à Émile Biasini. Le développement de cette stratégie générale aboutira au début du second septennat à la création d'un ministère délégué des grands travaux. La politique des grands travaux deviendra l'objet d'un ministère délégué, mais d'un ministère qui lui aussi sera confié à Émile Biasini. Il y a aussi une pensée, j'allais dire, d'urbaniste. François Mitterrand n'était pas urbaniste, mais l'élaboration du plan d'ensemble a amené à une transformation urbaine fondamentale qui se traduit notamment de trois manières. La première manière, c'est la Seine. Si vous prenez la succession existante aujourd'hui et qui nous paraît presque naturelle, en partant de l'amont vers l'aval, la Bibliothèque nationale de France, la Grande Galerie du Muséum, l'Institut du monde arabe, l'Opéra Bastille, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée d'Orsay et le Musée du Quai Branly, dont on dira un mot puisque c'est le dernier des grands chantiers et dont l'auteur est Jacques Chirac, cette espèce de voie royale, disons plutôt républicaine de la culture, est sans équivalent dans le monde sur ce périmètre, et elle a notamment pour vertu de réunir la rive droite et la rive gauche dans cette espèce de parcours où l'on passe d'un côté à l'autre des deux parties de Paris. Ça, c'est une des premières, j'allais dire, concrétisations urbaines très fortes de cette politique des grands travaux. Il y en a une deuxième qu'on ne souligne généralement pas, c'est la poursuite de cette grande perspective qui va du Louvre à l'Arc de Triomphe jusqu'à la Défense, et j'allais dire la consécration de cette perspective et en même temps la clôture de la Défense par la construction de la Grande Arche. Cet axe majeur qui se poursuivra, comme vous le savez, progressivement au fil des années, qui continue d'ailleurs de se poursuivre au-delà de la Défense jusqu'à la terrasse de Saint-Germain. Et puis la troisième concrétisation de cette pensée urbaine de la politique des grands chantiers, c'est la Villette, c'est-à-dire l'idée de reconvertir une des plus grandes friches industrielles parisiennes dans l'un des quartiers les plus populaires en un campus culturel exceptionnel, le plus grand espace public d'un seul tenant dans Paris, le plus grand espace public consacré à la culture au monde, avec la Cité des sciences et de l'industrie qui, je le répète, a été lancée par Giscard, mais la rénovation de la Grande Halle de la Villette, confiée à Reichen et Robert, la création du parc de la Villette, confiée à Tchoumi, la création de la Cité de la musique et du Conservatoire national supérieur de musique, confiée à Port-Zampar. Donc, trois grandes transformations urbaines de la capitale liées très directement à la conception et à la mise en œuvre de ce plan d'ensemble. Alors, un mot pour dire que cette politique des grands chantiers se terminera, se conclura avec Jacques Chirac et la construction du musée du Quai Branly. Il n'y aura pas de suite de cette ampleur à cette politique. Je conclus par quelques caractéristiques sur lesquelles il me semble important d'appeler votre attention. Première caractéristique, c'est une politique d'État. La ville de Paris n'aura pas mis un sou dans la construction de ces grands établissements et elle ne met pas un sou dans le financement de leur fonctionnement. Une deuxième caractéristique, c'est que C'est une politique qui réussit en termes de fréquentation. Une seule illustration. Lorsque Biasini a calibré avec Paye la pyramide du Louvre, il l'avait fait pour tripler la fréquentation de l'époque et aboutir à un chiffre de 4 millions de visiteurs par an. Nous en sommes à 8 millions de visiteurs, la pyramide est totalement saturée, il faut en reprendre l'ensemble de l'aménagement intérieur, les plans sont en cours, ce qui représente aujourd'hui un nouvel investissement estimé de 70 millions d'euros, ne serait-ce que pour faire face à ce doublement de la fréquentation par rapport à ce qui avait été prévu au moment de la réalisation des travaux de la pyramide. On a dit que c'était une politique coûteuse. Alors, les grands chantiers dont j'ai parlé coûtent à l'État en fonctionnement annuel aujourd'hui de l'ordre de 800 millions d'euros. Je n'entre pas dans le détail. Ces 800 millions d'euros sont à très peu de choses près ce qu'aurait coûté soit la rénovation, soit l'extension, soit la construction d'autres bâtiments inévitables pour faire face tout simplement aux besoins de la saturation des édifices préexistants. La Bibliothèque nationale était vétuste et saturée, le musée d'art moderne, je l'ai dit, le Louvre. Bon. Autrement dit, si l'on compare le montant global des investissements et le montant des financements d'État, les financements publics annuels nécessaires au fonctionnement de ces chantiers par rapport à ce qu'aurait coûté la réponse aux mêmes besoins en dehors de cette stratégie globale de grands travaux, on a certains différentiels. On a certains différentiels. Mais il est peu élevé. D'ailleurs, aujourd'hui, personne ne remet en cause ces investissements, ni les coûts de fonctionnement correspondants. C'est une politique qui, en termes de recettes propres, se traduit par une croissance régulière des recettes générées par rapport au budget global de chacun des équipements, globalement, avec des différences grandes. Aujourd'hui, le musée du Louvre couvre 40% de son budget par ses recettes propres. Et ce pourcentage est en augmentation lente mais régulière. Une quatrième caractéristique de cette politique, c'est en quelque sorte la réponse à une critique qui a été faite sur le parisianisme et la centralisation excessive qu'elle incarnait. C'est toujours Paris et le désert français. Tout pour Paris, rien pour les régions. Outre le fait que cette politique des grands travaux s'est accompagnée d'une trentaine de chantiers en province, dont on a évidemment beaucoup moins parlé, qui vont du centre Djibaou à Nouméa, construit par le même Renzo Piano, jusqu'à la transformation ou la création de grands musées nouveaux dans les principales métropoles, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail, mais l'important n'est pas là. L'important, c'est que la dynamique culturelle de fréquentation publique et de qualité architecturale qu'a constitué cette politique des grands travaux a provoqué un mouvement de mobilisation des collectivités territoriales sur ces mêmes ambitions qui n'auraient pas eu lieu si les grands travaux parisiens n'avaient pas été engagés. Les collectivités territoriales, les maires des grandes villes principalement, mais avec l'accompagnement des départements et des régions, se sont lancés, avec l'aide de l'État, mais avec une aide de moins en moins importante proportionnellement de la part de l'État, dans une stratégie d'aménagement culturel du territoire qui a concerné toute la France, toute l'armature urbaine française. Ça n'a donc pas été Paris, les grands travaux parisiens contre la province, ça a été, au fond, l'aménagement culturel du territoire, en grande partie impulsé par cette dynamique des grands travaux. Un dernier mot, j'ai dit que cette politique s'était interrompue avec le quai Branly et Jacques Chirac. Nicolas Sarkozy a lancé quelques projets de moindre ampleur qui n'ont pas été engagés dans leur réalisation, dont le financement n'a pas été assuré et que le nouveau gouvernement donc a annulé en raison de la crise économique et de la difficulté de se lancer aujourd'hui dans des investissements d'une telle ampleur. C'est le cas notamment de l'abandon du projet de création d'un grand centre de conservation à Cergy-Pontoise, et c'est le cas également d'un projet de création d'une nouvelle Villa Médicis importante dans la banlieue nord. Je vous remercie.